Quelle joie de pouvoir se retrouver en présentiel, même si nous sommes en nombre limité ici. Nous savons que aussi nombreux sont nos frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom. Remercions le Seigneur qui a écouté nos prières au sujet de la reprise des cultes en présentiel. Recevons cela comme une grâce. Dans la vie chrétienne, il peut y avoir des moments de doute. Pourtant, la foi chrétienne est faite de certitudes, des vérités solides décrites ou écrites dans la Bible. La foi chrétienne est faite de certitudes. Quel genre de Dieu serait Dieu s'il se plaisait à nous laisser dans le doute, dans les tourments de l'incertitude ? Assurément, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et aujourd'hui, nous terminons notre étude de la première lettre de Jean, après un an d'études qui s'est prolongée et étalée depuis. Mais nous terminons par ce passage que nous venons de lire. Et tout au long de cet épître, l'auteur, Jean, a cherché à rassurer les chrétiens d'Asie mineure, des chrétiens qui étaient troublés par un nouvel enseignement. Un nouvel enseignement qui était apporté par des faux frères. Les apôtres, comme Jean, ont enseigné certaines choses sur Jésus. Et voilà que d'autres enseignent tout autre chose. Alors, où est la vérité ? Qui a véritablement raison ? Jean démontre à ses destinataires qu'ils sont dans le vrai, qu'ils ont la vraie foi, car elle est placée en Jésus-Christ. Et trois tests tout au long de cet épître sont évoqués. Trois manières de pouvoir vérifier si quelqu'un est un chrétien authentique. Premièrement, un chrétien choisit l'obéissance à Dieu plutôt que le péché. Deuxièmement, il manifeste clairement de l'amour pour ses frères et sœurs en Christ. Et troisièmement, il est attaché à la vérité que Jésus est le Fils de Dieu, entièrement homme, entièrement Dieu. Il est attaché à cette vérité. Et avec le texte que nous avons lu, Jean enfonce le clou une bonne fois pour toutes. « Puisque vous croyez en Jésus-Christ, leur dit-il, soyez-en sûrs, vous avez la vie éternelle. » Et c'est le message que Dieu nous adresse cet après-midi encore. Dieu donne à celles et ceux qui croient en Jésus la certitude de la vie éternelle. Et nous allons voir que c'est tellement insistant dans ce texte qu'à la fin du message, nous n'aurons plus lieu d'en douter. Alors commençons par l'assurance de la vie éternelle. Quelques versets avant notre passage, l'apôtre Jean évoque le témoignage que Dieu rend à Jésus son Fils. Et il termine cette partie par ces mots. Je lis les versets 11 et 12. Or voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous commençons à connaître le style de Jean, pour qui il n'y a pas d'entre-deux. Toutes les personnes qui placent leur foi en Jésus reçoivent la vie éternelle, et toutes celles qui refusent de croire en lui n'ont pas cette vie. Jean ne s'arrête donc pas là, mais il affirme à ses destinataires qu'ils sont du côté de ceux qui ont la vie. Et c'est le verset 13 de notre passage. « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Quelle merveilleuse assurance. Jean sait qu'il écrit à des personnes qui ont cru en Jésus. Et inspiré par Dieu, il peut leur confirmer qu'ils ont la vie éternelle. De même, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, si vous croyez que Jésus est votre Sauveur, sachez que vous avez la vie éternelle. Et ce qui semble être dit si simplement ici peut paraître difficile à croire. Peut-être que certains d'entre nous résistent à cette affirmation. Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu ? Parce que s'il ne l'est pas, alors tout s'écroule comme un château de cartes. Par contre, s'il l'est, alors nous avons des raisons de sourire, même derrière nos masques. Si Jésus est le Fils de Dieu et que nous croyons en lui, nous savons, c'est une certitude, nous savons que nous avons la vie éternelle. Non seulement nous avons l'assurance que nous vivrons éternellement avec Dieu au-delà de notre mort physique, mais cette vie commence dès maintenant. Et vous remarquerez le présent ici au verset 13. Vous avez la vie éternelle. Si nous avons cru en Jésus-Christ, la transformation a déjà commencé. Et Dieu nous prépare dès maintenant pour cette vie à venir. Vous connaissez aussi ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Celui ou celle qui croit en Jésus obtient de sa part la vie éternelle. Souvenez-vous, celui qui a le Fils a la vie. Tous les chrétiens ont en commun cette assurance. Une assurance qui ne repose pas sur ce que nous pouvons faire de bien, même si faire le bien compte aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas cela qui nous sauve. Dieu nous sauve et nous appelle à lui faire confiance. Imaginez un instant, et je n'ai pas trouvé de meilleure photo pour l'illustrer, imaginez un instant que nous soyons pris dans des sables mouvants et que quelqu'un nous tende la main pour nous en sortir. Vous me diriez que c'est absurde de refuser une telle aide, d'essayer de s'en sortir tout seul en se débattant. Pourtant, celui ou celle qui ne fait pas confiance à Dieu se comporte exactement comme cette personne qui s'agite pour essayer de s'en sortir. Non, nous avons besoin de Dieu pour sortir de notre bourbier. Et nous devons croire que cette main tendue est le seul moyen d'être sauvé et qu'il n'y en a pas d'autre. L'apôtre Jean expose ici le but de sa lettre. « Je vous écris cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Et cela est aussi valable pour celles et ceux d'entre nous qui croyons. Si nous avons saisi cette main tendue, et c'est simplement une image pour illustrer le salut de Dieu, si nous avons saisi cette main tendue, nous sommes sauvés. Et dans ce sauvetage, nous n'avons aucun mérite. Notre salut, nous le devons à notre Sauveur, et en l'occurrence, Jésus-Christ. C'est lui qui a pris la place des pécheurs au moment où il était cloué sur une croix. Il a été condamné à notre place. Il a subi l'injustice. Mourir pour des crimes qu'il n'a pas commis. Mourir pour des péchés dont nous sommes les seuls fautifs. C'était le seul moyen, le seul, pour que Dieu accepte de nous pardonner. Et qu'au lieu de la condamnation, il nous accorde la vie éternelle, c'est-à-dire la vie pour toujours avec lui, dans sa glorieuse présence. Et parce que Jésus a vraiment fait cela pour nous, nous savons que nous avons reçu la vie. Et si cet après-midi, tu crois en cela, tu recevras la vie éternelle. Si vous êtes comme les destinataires de cette lettre et que vous passez peut-être par une période de doute et de questionnement, ce verset, et en fait toute cette épître, vous concerne. La Bible, la parole de Dieu, est là pour nous rassurer, pour nous donner des certitudes. Le jour où tu as dit oui à Jésus, c'est aussi le jour où il a dit oui pour que tu sois avec lui pour l'éternité. Bien sûr, il l'avait dit oui bien avant, puisqu'il t'a choisi. Et un professeur de théologie écrit ceci. Le doute, qui est une expérience universelle, même chez les croyants, ne devrait pas être le dernier mot dans l'expérience croyante. Il y a parfois un combat dans nos pensées, dans nos impressions, dans l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Nous doutons. Nous ne nous sentons pas à la hauteur. Mais en dernier lieu, faisons confiance à ce que Dieu dit dans sa parole. Vous avez la vie éternelle. Et là, je n'ai parlé que du premier verset. Jean poursuit en parlant cette fois-ci de l'assurance que les chrétiens peuvent avoir lorsqu'ils prient. L'assurance dans la prière. Lorsque vous vous mettez à prier, et nous l'avons fait tout à l'heure, avez-vous l'impression que Dieu vous écoute? Ou devrais-je formuler la question autrement? Avez-vous la certitude que Dieu vous écoute? Parfois, nous voyons dans les films les personnages qui font face à une situation critique et qui se mettent à prier « Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi. » Pour celui ou celle qui croit en Jésus, sa relation avec Dieu est tout autre. Par Jésus, nous pouvons venir à Dieu sans crainte, avec assurance. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Les chrétiens ont l'assurance que le Seigneur les écoute, qu'il tient compte de ce qu'ils peuvent demander. Leur prière compte. De ce fait, la prière ne nous est pas donnée pour réaliser nos désirs égoïstes, comme si Dieu était un génie qui exaucerait nos moindres désirs, nos moindres vœux. Ce serait mal comprendre la nature même de la prière. Non, Dieu nous appelle plutôt à rechercher sa volonté et à prier en fonction de cette volonté, à demander que sa volonté soit faite. Dieu fait ce qu'il veut. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec Thomas. Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que nous allons prier dans le sens de sa volonté? L'apôtre Paul appelle les chrétiens de Rome à rechercher la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et nous n'avons pas à chercher très loin, parce que ce que Dieu veut, nous le retrouvons dans la Bible. Et voici simplement quelques exemples, sans que je puisse les commenter, mais quelques exemples de prières que Dieu écoute. Je vous en donne les références. Dans 1 Jean, dans cette même épître, chapitre 1, verset 9, il s'agit de la demande de pardon. Si nous demandons pardon, si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Matthieu 7, verset 9 à 10, si nous demandons de bonnes choses, eh bien Dieu est incroyablement bon pour nous accorder ces bonnes choses selon lui. Ce qu'il qualifie de bonnes choses pour nous. Et puis dans Jacques, chapitre 1, verset 5, eh bien, si nous manquons de sagesse, Dieu est prêt à nous le donner sans nous faire de reproches. Et je vous invite vraiment à relire ces passages. Et il y en a bien d'autres. L'assurance du chrétien qui cherche la volonté de Dieu, c'est qu'il sera écouté. Comprenez qu'il sera exaucé. Dieu répondra. Dieu accordera ce qui aura été demandé et qui est conforme à sa volonté. Est-ce que vous avez cette assurance lorsque vous priez? Ou est-ce que pour vous, c'est juste un coup d'essai? On verra si Dieu exauce ou pas. Avez-vous cette assurance? L'assurance d'être écouté, l'assurance que Dieu donnera ce que vous demanderez. Et Jean nous donne un exemple de prière qui sera écoutée par Dieu. Au verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. » Nous sommes ici dans le cas où un chrétien pêche de manière visible. Vous l'avez vu, ou vous avez su ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Que faut-il faire dans ce cas? D'après Jean, il faut prier. Prier que ce frère ou cette sœur reconnaisse son péché et demande pardon à Dieu. Et la promesse qui nous est donnée ici, c'est que Dieu donnera la vie à ce frère, à cette sœur. Voilà une prière à exaucer. Comme le suggère un commentateur, Dieu promet ici non pas la vie éternelle, puisque comme nous l'avons déjà vu, le chrétien l'a déjà obtenue. Ici, Dieu donnera au futur la vie dans le sens de la résurrection. Au bout du compte, Dieu fera revenir à la vie ce frère, cette sœur, pour qu'il passe l'éternité avec lui. Et cela doit nous donner de l'assurance lorsque nous prions dans ce cas de figure. Mais alors, que signifie ce péché qui mène ou qui ne mène pas à la mort et qui est évoqué ici dans les versets 16 et 17 ? Visiblement, le péché qui mène à la mort, c'est celui qui conduit à la mort éternelle, c'est-à-dire à une séparation éternelle loin de Dieu. Or, les chrétiens qui ont obtenu déjà, qui ont la certitude, l'assurance d'avoir la vie éternelle, ne sont pas concernés par ce péché. Ils commettent plutôt des péchés qui ne mènent pas à cette condamnation éternelle et pour lesquels il y a toujours un pardon possible. Et comme nous l'avons vu, c'est le sacrifice de Jésus qui permet ce pardon. Nous dirons encore que le péché qui mène à la mort, c'est celui qui consiste à refuser de manière obstinée de croire en Jésus. C'est le péché de celles et ceux qui tournent définitivement le dos à Dieu. Et dans le contexte, il semble qu'il s'agisse des faux frères, de ceux qui ont rejeté la vérité que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en rejetant cette vérité, par là même, ils rejettent le seul moyen d'avoir la vie. Pour l'heure, Jean demande aux chrétiens de prier pour des frères qui peuvent encore revenir sur le droit chemin. Et pour cela, il faut compter sur Dieu, puisque nous nous adressons à lui, puisque nous le prions. Il faut compter sur Dieu, il faut compter sur son action pour les convaincre, pour éveiller leur conscience. Bien sûr, il est possible de reprendre un frère ou une sœur en lui disant les choses en face, en lui disant qu'il est en train de faire fausse route. Et combien la prière est dans ce cas précis tellement à propos avant d'entamer une telle démarche. Dieu utilisera, s'il le souhaite, nos mots pour ramener le frère, la sœur sur le droit chemin. Mais soyons sûrs que Dieu ne l'abandonnera pas. Cela nécessite de notre part un souci sincère pour nos frères et sœurs, et particulièrement pour celles et ceux qui s'égarent. Malheureusement, les chrétiens ne sont pas immunisés contre le péché. C'est dire combien il est important de prier les uns pour les autres au sein de l'Église, de la famille de Dieu. Combien il est important de prier les uns pour les autres. Quand tu vois un frère ou une sœur pécher, qu'est-ce que cela te fait? Est-ce que tu t'empresses de prier pour elle, pour lui, afin que Dieu lui donne de revenir à lui? Il me semble que prier dans ce cas de figure fait partie de l'amour fraternel que nous sommes appelés à avoir les uns pour les autres. Un amour qui se soucie des autres. Et comme nous l'avons vu dans cet épître de Jean, l'amour est un signe distinctif qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. Alors prions pour nos frères et sœurs qui ont pris un autre virage. Et soyons assurés que Dieu nous écoute et qu'il les ressuscitera au dernier jour pour la vie. C'est ce que Dieu veut que nous fassions les uns pour les autres. C'est ce qu'un vrai chrétien ferait. Nous avons vu, premièrement, l'assurance de la vie éternelle pour celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Nous venons de voir l'assurance que les chrétiens ont d'être écoutés par Dieu, par exemple, quand ils prient pour leurs frères et sœurs qui pêchent. Et comme si cela ne suffisait pas, Jean termine sa lettre en affirmant de nouveau que ses lecteurs sont du bon côté grâce à Jésus-Christ. L'assurance grâce à Jésus-Christ. Si les chrétiens peuvent être pleins d'assurance, redisons-le, c'est grâce à Jésus-Christ. Et comme le soulignent plusieurs commentateurs, Jean termine sa lettre avec trois certitudes qui commencent toutes par « nous savons ». Trois certitudes. Si jusque-là vous n'étiez pas sûr, on termine par trois certitudes. Premièrement, verset 18, « nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. » Jean a dit quelque chose de similaire dans le chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 9. Le fait d'être enfant de Dieu indique qu'il y a eu un changement qui s'est opéré en nous. Et en l'occurrence, parce qu'en croyant en Jésus, nous sommes passés dans le camp de Dieu. Nous avons intégré sa famille, alors qu'avant nous ne l'étions pas. Autrefois, nous ignorions Dieu et ne voulions pas l'écouter. Mais depuis notre conversion, nous n'avons plus le même rapport au péché. Le péché nous dégoûte. Le péché nous fait horreur. Pas encore totalement, c'est vrai, il y a des péchés qui attirent encore les chrétiens. Mais déjà, cela commence. Le péché nous dégoûte. Nous ne sommes plus la même personne. Nous ne voyons plus peut-être nos anciennes habitudes de la même façon. Nous voulons désormais vivre comme Dieu le veut et l'ordonne. Et j'aime cette formule de John Stott. Je vous parle souvent de ce pasteur anglican qui a écrit un commentaire sur les épîtres de Jean. Et voici ce qu'il écrit. « L'enfant de Dieu et le péché peuvent occasionnellement se croiser. Ils ne peuvent pas vivre ensemble en harmonie. » Occasionnellement, l'enfant de Dieu et le péché peuvent se croiser, mais ils ne peuvent pas vivre ensemble en harmonie. Ils ne pourraient pas se supporter, en quelque sorte. Il est inconcevable qu'un enfant de Dieu qui a été touché par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu, continue de pécher comme avant ou plus qu'avant. Sans quoi nous pouvons vraiment nous demander si quelque chose a changé en lui. Les chrétiens ne supportent pas longtemps la cohabitation avec le péché, parce que désormais, ils sont de Dieu. Et ça, c'est notre deuxième certitude, verset 19. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. » Les chrétiens savent qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sont désormais dans le camp de Dieu, et c'est définitif. Pour ce qui est du monde qui ne connaît pas Dieu, il reste sous l'influence du mal, et plus particulièrement du diable. Le diable se plaît à conduire les humains à leur perte. Il a commencé dans le jardin d'Éden, et depuis il ne cesse de séduire le monde. Et nous nous rendons compte que la plupart des gens n'en ont même pas conscience. Mais en ce qui concerne les chrétiens, ils ne sont plus sous son contrôle. Pourquoi ? Eh bien, regardez la troisième certitude, verset 20. « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Tout se rattache à cet événement historique. Jésus est venu parmi les hommes. Grâce à lui, nous savons qui est Dieu, qui est le vrai Dieu. Et par opposition, il y a bien des idoles qui existent dans ce monde. Et il semble que la dernière exhortation de Jean, au verset 21, vise peut-être ces enseignements que propagent les faux frères et qui donnent une image faussée, caricaturée du vrai Dieu. Voilà les idoles auxquelles les chrétiens de l'époque de Jean devaient faire attention. Mais je vous propose simplement que nous puissions nous concentrer sur celui qui est le vrai Dieu. Comment savons-nous que nous connaissons le vrai Dieu ? Uniquement parce que Dieu s'est révélé à nous par Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci au début de sa lettre. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, on parle bien de Dieu, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Et puis le verset 3 qui est une magnifique description du Fils. « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Comment nous savons que nous connaissons le vrai Dieu ? Uniquement par Jésus-Christ. Le vrai Dieu nous a parlé par le Fils. Et nous savons qu'en dehors de Jésus, nous ne pouvons pas connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Jésus est indispensable. Nul ne peut prétendre connaître Dieu aujourd'hui s'il ne reconnaît pas Jésus comme son Fils. Sans Jésus, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Et sans connaître Dieu, nous ne sommes pas alors en relation avec le vrai Dieu. Et si nous ne sommes pas en relation avec le vrai Dieu, nous n'avons pas la vie éternelle. Beaucoup de gens peuvent prétendre connaître Dieu. Mais est-ce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ ? Mais en Jésus, nous avons tout cela. Et Jean l'affirme, nous pouvons faire confiance à Jésus-Christ parce que qui est-il ? Le vrai Dieu et la vie éternelle. Et quel bonheur ! Quel bonheur de le connaître. Si aujourd'hui nous pouvons être pleins d'assurance, c'est parce que Jésus est venu à un moment donné de l'histoire et qu'il nous a révélé qui est Dieu. Un Dieu qui se soucie de nous au point de donner son Fils pour que nous échappions au châtiment. En cette période de l'Avent, bénissons Dieu le Père qui nous a envoyé Jésus au bon moment. Louons Dieu le Fils, qui s'est abaissé pour nous rejoindre dans notre condition humaine, afin de souffrir et de mourir à notre place. Et Dieu l'a ressuscité, afin que nous ayons aussi l'espérance de notre résurrection pour la vie éternelle. Et Dieu a choisi ce moyen pour que nous le connaissions. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Dieu a choisi ce moyen pour que nous ayons la certitude d'avoir la vie éternelle. Et nous lisons dans Jean 17, Jean chapitre 17, la prière que Jésus adresse au Père. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. » Il fait cette prière avant de mourir, avant de se rendre à la croix. « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils. » Afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si vous connaissez le seul vrai Dieu, et si vous connaissez Jésus-Christ, alors, comme l'écrit Jean, vous avez la vie éternelle. Et quelle joie d'avoir une telle assurance dans la vie. Quand on sait ça, quelle assurance. Alors mon encouragement pour cette période de l'Avent, c'est que nous puissions continuer à cultiver notre relation avec Dieu. à nous attacher à lui, et tout particulièrement en lisant sa parole. Oui, lisons sa parole durant l'Avent. Et tout particulièrement, j'enverrai prochainement une proposition, un calendrier de lecture pour que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu et que nous puissions redécouvrir tout ce que Dieu avait annoncé et accompli pour notre salut. Afin que cette certitude soit encore plus ancrée dans notre cœur. Et quelle est cette certitude ? Quelle est cette certitude ? Le Fils de Dieu est venu parmi nous. Et en lui, nous avons la vie. Nous avons toujours, à un moment ou à un autre, des périodes où le doute s'immisce dans notre vie. Et parfois, c'est parce que notre confiance en la parole de Dieu diminue. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela ? Dieu dit dans sa parole, et nous l'avons vu cet après-midi, que celles et ceux qui mettent leur foi en Jésus ont la vie éternelle. Est-ce qu'on peut mettre en doute une telle parole ? Et cette lettre de Jean est là, dans la Bible, pour nous rassurer. En cas de doute. Premièrement, nous avons vu que si nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous pouvons affirmer avec assurance que nous avons la vie éternelle. Et ce n'est pas présomptueux de notre part de l'affirmer. Nous avons la vie éternelle. Si nous prions Dieu selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute et qu'il répond favorablement à nos demandes. Parce que nous avons déjà cette relation avec lui, par Jésus. Et cela nous incite, nous encourage à prier pour nos frères et sœurs qui empruntent en ce moment la mauvaise route. Et si nous pouvons avoir autant d'assurance, eh bien cela dépend d'un événement en particulier. C'est parce que Jésus est venu dans l'histoire. Si Jésus n'était pas venu dans l'histoire, nous n'aurions aucune assurance à avoir. Et nous serions les plus malheureux des êtres humains. Mais Jésus est venu dans l'histoire, et c'est par lui que nous connaissons le vrai Dieu, et que nous sommes en relation avec le vrai Dieu. Alors j'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Et à écouter encore une fois la parole de Dieu. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà notre assurance. Prions ensemble. Peut-être que jusque-là, Seigneur, certains d'entre nous, nous avions des doutes. Nous nous posions des questions. Mais face à l'évidence, face aux affirmations de ta parole, Seigneur, nous nous soumettons. Et nous reconnaissons que tu dis vrai, que ta parole est la vérité. Et pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous remettons en cause cette vérité, lorsque nous doutons de nous-mêmes parce que nous avons peut-être l'impression que tout dépend de nous. Mais notre salut dépend de toi, Seigneur. C'est toi qui acceptes, dans ta bonté, dans ta grâce, de nous accorder la vie éternelle. Et merci parce que tu nous la donnes. Et que nous pouvons dès maintenant expérimenter tellement de grâce et déjà d'avoir cette relation particulière avec toi. Merci pour Jésus qui est venu dans l'histoire. Nous le croyons et si nous sommes dans cette période de l'Avent, c'est parce que nous y croyons. Oui, Jésus est venu dans l'histoire et grâce à lui, nous pouvons avoir cette assurance ferme, solide, inébranlable. Alors que toute la gloire te revienne, parce que c'est toi qui nous rassures avant tout. Nous sommes incapables de nous rassurer nous-mêmes, mais tu nous rassures toi-même. Merci pour tes paroles. Merci de nous fortifier encore dans cette semaine à pouvoir nous attacher à cette assurance, au don parfait que tu nous as donné à travers Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.